trentaine.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Eh bien bonjour, bienvenue dans notre émission hebdomadaire décoloniale du mercredi. Nous sommes aujourd'hui avec un invité. C'est une émission enregistrée quelques jours avant sa diffusion. Elle est enregistrée dans les conditions du direct, vendredi 17 mai. Alors notre invité aujourd'hui, c'est André Rosweg, venu nous parler comme...
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la Clé des Ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre première émission de juin 2024, le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes. Aujourd'hui et pour l'épisode de la semaine prochaine, nous avons un format particulier sur la question kurde. Le samedi 15 juin est organisé au Parc Palmer de Senon, le Festival des Jeunes Femmes en hommage à Fidan Dogan. Ce festival de musique kurde est organisé par le Centre démocratique kurde de Senon en partenariat avec le Mouvement des Femmes Kurdes en France, TJKF. C'est la 7e édition du Festival des Femmes Kurdes en France. Ce festival est organisé traditionnellement à Paris, mais en raison des JO, c'est donc la première édition qui aura lieu au Parc Palmer de Senon. Le Festival de Musique des Jeunes Femmes Kurdes est en hommage à Fidan Dogan, appelé également Rojbin, qui fut assassinée le 10 janvier 2013 à Paris. Cet événement culturel met en lumière la lutte des femmes au niveau international, mais surtout rend hommage à Rojbin qui a mené son combat en France et au Kurdistan. Rojbin, Fidan Dogan, est engagée dans la révolution féminine kurde et elle s'est aussi associée au niveau national à beaucoup d'activités contre toutes les formes du système patriarcal. Les femmes kurdes sont le pilier principal du combat pour la libération du peuple kurde et défendent des valeurs émancipatrices de la lutte des femmes partout dans le monde. Ainsi, le samedi 15 juin, sont invitées toutes les femmes, militantes ou non, tous ceux qui soutiennent ces causes, à venir rencontrer les jeunes femmes kurdes à Senon pour renforcer la solidarité entre toutes les femmes de la planète. Pour rappel, ce festival aura lieu de 17h à 22h au Parc Palmer de Senon et il est bien sûr gratuit. Aujourd'hui, pour faire écho à cet événement du 15 juin, nous diffusons l'excellent podcast Lutte kurde ici et ailleurs, particulièrement cet épisode qui porte sur la libération des femmes dans les écrits d'Abdullah Öcalan, avec en invité Sarah Marcha du centre de Gynéologie. La discussion de ce podcast Lutte kurde ici et ailleurs porte sur le livre d'Öcalan, Libérer la vie, la révolution de la femme.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la Clé des Ondes.
Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Marcha. Sarah Marcha, bonjour.
Bonjour.
Donc, initialement, je souhaitais te recevoir pour te parler de gynéologie, ou plutôt pour t'entendre parler de gynéologie. Et puis, en préparant cet épisode, j'ai pris connaissance d'un livre d'Abdullah Öcalan qui s'appelle Libérer la vie, la révolution de la femme. Et je dois dire que pourtant, en tant que féministe aguerrie, j'ai été extrêmement surprise, dans un sens plus que positif, par la radicalité de ses propos. Et comme justement nous approchons du 10 décembre, qui est la journée internationale des livres d'Abdullah Öcalan, dans le cadre de la campagne pour sa libération, puisqu'il est enfermé depuis plus de 20 ans par la Turquie sur l'île d'Imrali, je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir prendre des extraits et des citations de son ouvrage « Libérer la vie, la révolution de la femme » et de te les faire commenter. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Abdullah Öcalan, il est important de préciser que c'est le penseur et leader du projet de confédéralisme démocratique que beaucoup de personnes connaissent notamment par le biais du Rojava. Voilà, et auquel on a déjà dédié un épisode de Lutte Kurde. Donc si vous ne connaissez pas ce concept de confédéralisme démocratique, on peut vous inviter à aller écouter l'épisode de Lutte Kurde dédié à ce concept.
Et si je peux me permettre, donc cette brochure, donc qui est disponible sur internet, hein, aux côtés d'autres brochures, en fait, sont des petits résumés, des compilations en fait de textes thématiques, donc là sur la question de la libération des femmes, d'Öcalan, mais qui sont en fait dans des ouvrages qui sont plus conséquents, qui s'appellent, qui sont en plusieurs volumes, on en a trois déjà en français. C'est le manifeste pour une civilisation démocratique que j'invite aussi les auditeurs et auditrices à lire.
Ce que je te propose, Sarah, c'est de te lire les extraits qui, moi, m'ont marqué, et puis que toi, tu puisses réagir à ces extraits. Alors, première citation. « La différence biologique de la femme est utilisée comme justification à son asservissement. Tout son travail est appréhendé comme acquis, déconsidéré et appelé travail de femme. Sa présence dans l'espace public est dite interdite par la religion et moralement honteuse. » Progressivement, elle est exclue de toutes les activités sociales les plus importantes, tandis que le pouvoir dominant des activités sociales, politiques et économiques est approprié par l'homme. La faiblesse de la femme s'institutionnalise et s'accentue. Ainsi, l'idée d'un sexe faible devient une croyance partagée. Est-ce que tu veux bien réagir à cette première citation, Sarah ?
Alors cette citation, elle est fondamentale pour tout mouvement de libération des femmes, puisque c'est cette idée de dire qu'il n'y a rien qui justifie dans la nature, que ce soit pour des raisons biologiques, des raisons intellectuelles ou autres, l'oppression des hommes sur les femmes, ou une possible supériorité des hommes sur les femmes, ce qui justifierait en fait la violence aussi qui est faite sur donc la moitié de l'humanité, mais de dire que ce sont des hiérarchies et des rapports de domination qui sont socialement créés au sein des structures humaines.
Ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, du coup, dans cette première citation d'Abdullah Öcalan, c'est cette fin où il dit que ça devient une croyance qui est partagée. Et c'est vraiment à ça que la force d'une oppression peut être mesurée, à savoir que même les personnes opprimées vont intégrer quelque part, de façon consciente ou inconsciente, le fait qu'elles sont inférieures.
Exactement, ça devient des préjugés. Et on grandit, qu'on soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs, on grandit avec ces préjugés et ça va délimiter aussi nos espaces d'action, ça va délimiter aussi nos possibilités d'échange et les relations qu'on va créer avec notre propre genre ou entre des genres différents. Et donc ça, c'est vraiment très très important de pouvoir montrer que derrière, il y a toute une histoire de construction de ces préjugés qui va évoluer au fil du temps. Et notamment, Abdullah Öcalan, dans sa pensée, va toujours revenir aux origines du patriarcat et montrer comment, à travers la mythologie, la religion, la philosophie, la science, l'art, puis ensuite tout le système, les structures politiques, sociales, eh bien, ces préjugés vont s'ancrer peu à peu dans la société.
Alors, on va pouvoir passer à la seconde citation. En réalité, la société traite la femme non seulement comme un sexe biologiquement distinct, mais presque comme une race, une nation ou une classe séparée, la plus opprimée des races, des nations ou des classes. Aucune race, aucune classe, ni aucune nation n'est assujettie à un esclavage aussi systématique que la réduction au statut de femme au foyer.
Alors, comme on a dit, si on revient aux origines du patriarcat, donc de savoir que la plus longue partie de l'histoire de l'humanité, en fait, le système patriarcal, c'est-à-dire on va dire l'autorité familial qui est dans les mains du père et des droits en fait des hommes sur les femmes de leur famille, eh bien c'est quelque chose qui en fait est très récent dans l'histoire de notre humanité. Donc ça fait 5000 ans, mais si on pense l'humanité et le développement social de l'être humain comme un processus de millions d'années, eh bien on se rend compte que c'est pas une fatalité. Et mais par contre aussi, c'est important de comprendre, et c'est là aussi le fondamental dans la pensée d'Abdullah Öcalan et dans la manière aussi de trouver une alternative au système de domination, c'est de comprendre que tous les rapports justement d'oppression et de entre guillemets entre dominant et dominé, en fait, trouvent leur origine dans la construction d'une domination des hommes, de ce que Öcalan aussi appelle l'homme fort. Contre la femme mère, donc qui était au centre de la société et donc qui était libre et qui pouvait vivre sans être, on va dire, sous le contrôle d'un père, d'un frère, d'un mari ou d'un État aussi, puisque l'État, en fait, est la reproduction au niveau sociétal de ce système patriarcal qui va donc émerger. Il y a plus ou moins 5000 ans, en tout cas, qui va s'institutionnaliser en Mésopotamie et qui va ensuite, en tant que modèle, se répandre dans le monde. Et donc, considérer la femme comme le premier groupe social colonisé et de voir que malgré l'ensemble de la diversité et des différentes oppressions qui existent hein, aujourd'hui de différentes manières en termes de classe, en termes de race, en termes de nation, en termes voilà vraiment très diverses, eh bien de penser qu'en fait ce modèle d'oppression, il a été en fait, il puise ses bases, ses fondements dans l'avènement du patriarcat. Et donc aussi, comme les femmes sont présentes dans tous les groupes sociaux, elles sont aussi opprimées dans tous les groupes sociaux. C'est-à-dire que même si ça ne veut pas dire que partout, dans toutes les situations, une femme, encore une fois, si dans son caractère biologique, sera forcément plus opprimée que les hommes, et ça veut dire qu'en fait c'est une structure qui s'est construite et qui va devenir un modèle jusqu'à aujourd'hui, l'ère de la modernité capitaliste.
Est-ce que c'est un terme que tu peux nous expliquer peut-être, puisque ça va revenir souvent, qu'est-ce qu'on entend par l'ère de la modernité capitaliste ?
Alors, ce qu'on appelle la modernité capitaliste, c'est, on va dire, la temporalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, donc qui est au temps donc où le système capitaliste s'est institutionnalisé, où l'ensemble de l'économie, la politique et aussi les rapports sociaux vont être donc basés pour le profit, où la question du pouvoir va être liée au monopole aussi, de manière globale aujourd'hui. Et donc, quand on parle de modernité capitaliste, c'est aussi déjà pour parler de son alternative et donc le projet d'Abdullah Öcalan qui parle de modernité démocratique.
Merci. Alors, citation suivante. « Tandis que le monde masculin était exalté et héroïsé, tout ce qui se rapportait au féminin fut dévalorisé, rabaissé et vilipendi. »
Alors ça, on en reparlera très certainement quand on parlera de généalogie, mais ce qui est très important, c'est que donc, comme je l'ai dit auparavant, le postulat d'Abdullah Öcalan, à travers les recherches archéologiques, historiques et aussi les analyses qui ont été faites par lui-même et par le mouvement de libération des femmes, donc de penser que donc si ce patriarcat n'a pas toujours existé, c'est-à-dire qu'il existait un autre système, et donc la société et l'évolution en fait de la société, la création, on va dire, le développement de la sociabilité humaine, qui est quelque chose de magnifique, en fait, et qui fait qu'on est ce que l'on est aujourd'hui en tant qu'humanité, eh bien, s'est développé grâce à un système de valeurs, qui avait été créé par donc les femmes mères, puisque à l'époque, la société était organisée en clans. Et l'identité en fait était reliée non pas dans la famille patriarcale à la dynastie ou à la lignée des patriarches entre guillemets, mais à la lignée maternelle. Et donc ce système de valeurs, il a fallu à un moment donné qu'il soit renversé pour pouvoir établir un autre système. En sachant aussi que quand on parle donc de cette culture que nous on appelle la culture de la mer, c'est une culture de valeurs communales, de partage, de vie en communauté, mais aussi de développer, en fait, de trouver toujours des solutions aux problèmes de la société, de pouvoir faire défendre la vie aussi, c'est-à-dire assurer la continuité de la vie, la protéger, alors que dans un système patriarcal, ça va être au contraire le monopole, l'accumulation des biens, du pouvoir, le contrôle de la société, le contrôle de l'intellect, le contrôle des corps, pour le contrôle de la nature aussi. Et donc, ça, c'est pour ça que pour pouvoir construire ce nouveau modèle de domination, il a fallu en fait renverser les valeurs qui venaient de la culture, donc de la femme mère, autant de ce que nous on appelle la société naturelle, donc qui sont les sociétés pré-civilisationnelles, les sociétés pré-patriarcales, on peut dire, en langue française, je veux dire dans notre imaginaire, et qui vont devenir des valeurs, donc l'entraide, prendre soin, des tâches qui sont aussi de créer les conditions aussi au sein du foyer, mais pas que aussi, dans les rapports sociaux aussi, et bien de les minimiser et d'en faire en fait, non seulement de les d'en faire un travail qui n'est pas reconnu, ou en tout cas qui est dévalorisé, mais aussi, en fait, si on regarde, le système repose complètement sur ce type de travaux, alors qu'il est dévalorisé, et donc les femmes qui traditionnellement continuent de faire, qui ont été exclues du reste de la société et qui continuent de faire certains travaux, sont en fait le font de manière en fait à rendre possible ce système de domination, donc comme des travailleuses pas chères, voire esclaves.
Moi, cette phrase, quand je l'ai lue, tandis que le monde masculin était exalté, héroïsé, tout ce qui se rapportait au féminin fut dévalorisé, rabaissé, vilipendé. Ça m'a aussi fait penser à ce que les féministes appellent le double standard dans les cas de viol, ou quand les deux personnes sont alcoolisées. Donc, en règle générale, c'est les hommes qui violent les femmes, même s'il y a des exceptions, hein, mais en tout cas, c'est le cas majoritaire. Ou quand l'homme est alcoolisé, on va le prendre non pas comme une circonstance aggravante, ce que c'est en règle générale d'un point de vue purement juridique, mais comme quelque chose qui permet un petit peu de le dédouaner parce qu'il n'avait pas tout à fait conscience de ce qu'il faisait, tandis que la femme alcoolisée dans la même situation en tant que victime, on va considérer qu'elle ne s'est pas protégée, qu'elle s'est mise en situation de danger, etc. C'est-à-dire que même pour quelque chose qui est analogue, c'est-à-dire le fait de boire et de consommer de l'alcool, femmes et hommes ne vont pas être jugés de façon similaire.
Oui, en fait, c'est ça, c'est tout le système structurel qui va être mis en place. C'est l'idée, en fait, de diviniser, en fait, la masculinité, la virilité. Ça, on le voit aussi au fur et à mesure de l'histoire, notamment à travers la mythologie, où on peut vraiment remarquer une transition, en fait, de l'ancienne culture communale vers un système patriarcal. Et où, encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'homme fort, c'est-à-dire que c'est la force physique, c'est l'homme dominant qui va être mis en avant. Et alors que ces attributs, en fait, chez une femme vont être vus de